Chapitre 39. 35 000 pieds au-dessus du Nevada, dimanche 4 avril 1981. Repassez la cassette, Richard, dit C. Arnold Barent. La cabine confortablement aménagée du Boeing 747 fut à nouveau plongée dans l'obscurité, et les images se remirent à danser sur l'écran vidéo géant. Le président se retourne pour répondre à une question, lève la main gauche pour saluer, grimace, crie et confusion. Un agent des services secrets bondit en avant, apparemment soulevé par un fil invisible. Les détonations sont à peine audibles, insubstantielles. Une mitraillette Uzi apparaît comme par magie dans la main d'un autre agent. Plusieurs gorilles plaquent un jeune homme au sol. La caméra zoome sur un homme couché sur le trottoir, du sang sur son crâne chauve. Un policier gît face contre terre sur le bitume. L'homme à la mitraillette s'accroupit et lance des ordres d'une voix sèche d'agent de la circulation pendant que ses collègues maîtrisent le suspect. Un groupe d'agents a transporté le président dans sa limousine et la longue voiture noire s'éloigne du trottoir à vive allure, ne laissant derrière elle que vacarme et agitation.
Arrêt sur image, Richard, dit Barent.
La limousine se figea sur l'écran alors que les lumières se rallumaient dans la cabine.
Messieurs ?
Tony Harrod cligna des yeux et regarda autour de lui. C. Arnold Barent était perché sur le bord de son large bureau incurvé. Un téléphone et un terminal d'ordinateur étincelant étaient posés sur le meuble. L'obscurité régnait derrière les hublots de la cabine et le bruit des moteurs était étouffé par les lambris en teck. Joseph Kepler était assis en face de Barent. Son costume gris semblait sortir du teinturier. Ses souliers noirs luisaient. Harrod contempla son beau visage buriné et décida que Kepler ressemblait vraiment à Charlton Heston et que c'était tous les deux des cons. Affalé sur son siège à côté de Barent, le révérend Jimmy Wayne Sutter croisa les doigts sur son ventre proéminent. Ses longs cheveux blancs brillaient à la lueur des plafonniers. Le seul autre occupant de la cabine était Richard Haynes, le nouvel assistant de Barent. Maria Chen et les autres attendaient la suite des événements dans la cabine avant.
« Il me semble que quelqu'un a tenté de tuer notre président bien-aimé, » dit Jimmy Wayne Sutter de sa voix de stentor.
Barent eut un rictus.
« C'est évident. Mais pourquoi Willie Borden aurait-il pris un tel risque? Et qui était sa cible? Reagan ou moi?
Je ne vous ai pas vu dans le clip, dit Harrod.
Barent jeta un regard noir au producteur.
Je me trouvais à 5 mètres derrière le président, Tony. Je venais de sortir du Hilton par la porte de service quand nous avons entendu les coups de feu. Richard et mes autres gardes du corps m'ont fait rentrer tout de suite.
Je n'arrive toujours pas à croire que Willie puisse être responsable de cet attentat, dit Kepler.
« Nous en savons davantage que la semaine dernière. Ce Hinckley avait un dossier psychiatrique épais comme un annuaire. Il écrivait un journal intime. Son acte lui a été inspiré par son obsession pour Jodie Foster, bon Dieu. Ça ne colle pas avec le profil du vieux. Il aurait pu utiliser un des gardes du corps de Reagan, ou un des flics de Washington, comme celui qui s'est fait descendre. Et le Bosch est un ancien officier de la Wehrmacht, pas vrai ? Il s'y connaît assez en armes à feu pour utiliser autre chose qu'un minable calibre 22.
Chargé avec des balles explosives, lui rappela Barent. C'est seulement par accident qu'elles n'ont pas explosé.
C'est seulement par accident qu'une balle a ricoché sur la portière de la voiture et a touché Reagan, dit Kepler.
Si Willie était dans le coup, il aurait pu attendre que vous soyez confortablement assis à côté du président, utiliser l'agent armé d'une Uzi ou d'une Mac-10, peu importe, et vous massacrer sans courir de risque.
Voilà qui est réconfortant, dit sèchement Barent.
Qu'en pensez-vous, Jimmy?
Sutter s'épongea le front avec un mouchoir en soie et haussa les épaules. Joseph n'a pas tort, frère C. Cet assassin en herbe est fou allié. Il me semble absurde de dépenser autant d'efforts à lui créer un pareil historique pour lui faire ensuite rater sa cible.
Il n'a pas raté sa cible, dit doucement Barent. Le président a été atteint au poumon gauche.
Je veux dire, vous ratez, dit Sutter avec un large sourire. Après tout, pourquoi notre ami le producteur en voudrait-il à ce pauvre Ronnie? Ce sont tous les deux des produits d'Hollywood.
Harrod se demanda si Barent allait solliciter son opinion. Après tout, c'était la première fois qu'il participait à une réunion du comité de direction de l'Island Club.
« Tony ?» dit Barent.
« Je ne sais pas, » dit Harrod.
« Je ne sais vraiment pas. »
Barent fit signe à Richard Haynes.
« Peut-être ceci nous aidera-t-il à prendre une décision, » dit-il.
Les lumières s'éteignirent, et l'écran passa un film 8 mm, grenu et saccadé, qui avait été transféré sur bande vidéo. Scène de foule prise au hasard, des voitures de police, puis un défilé de limousines et de véhicules des services secrets. Harrod se rendit compte qu'il regardait l'arrivée du président O'Hilton de Washington.
« Nous avons confisqué toutes les photos et tous les films que nous avons pu trouver, » dit Barent.
« Qui est-ce, nous ?» demanda Kepler.
Barent arqua un sourcil.
« Le décès inopiné de Charles a été une grande perte, Joseph. Mais nous avons encore quelques contacts auprès de certaines agences.
Là, c'est ce passage. »
Le film montrait surtout les rues désertes et les nuques des badauds. Harrod estima que celui qu'il avait tourné se trouvait à 10 ou 12 mètres du président et de son agresseur, du mauvais côté de la rue, et que ce devait être un aveugle atteint de la maladie de Parkinson. Il semblait en tout cas incapable de tenir une caméra. Il n'y avait pas de son. Lorsque les coups de feu éclatèrent, on ne perçut qu'un début d'agitation parmi la foule. Le cinéaste amateur ne cherchait pas à filmer le président à ce moment précis.
« Stop !»
ordonna Barent. L'image se figea sur l'écran vidéo géant. L'angle de prise de vue était plutôt bizarre, mais on apercevait le visage d'un vieil homme entre les épaules de deux autres spectateurs. Il semblait âgé d'environ 70 ans. Ses cheveux blancs dépassaient de sa casquette écossaise, et il observait la scène avec un intérêt évident. Ses yeux étaient minuscules et glaciales.
« C'est bien lui ?» demanda Sutter.
« Vous en êtes sûr ?»«
Ça ne ressemble pas aux photos que j'ai pu voir, » dit Kepler.
« Tony ?» dit Barent.
Harrod sentit des gouttes de sueur perler sur son front et au-dessus de ses lèvres. L'image figée était grenue, déformée par un objectif, un film et un angle de prise de vue également médiocre. Une tache de lumière mangeait le tiers inférieur du plan. Harrod se rendit compte qu'il pouvait prétendre que l'image était trop floue, qu'il ne pouvait être sûr de rien. Il avait une chance de rester en dehors de cette histoire.
« Ouais, »
dit-il.
« C'est bien, Willy. »
Barent hocha la tête, et Haynes fit disparaître l'image vidéo, ralluma les lumières et s'en fut. Pendant plusieurs secondes, on n'entendit que le ronronnement rassurant des moteurs.
« Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, pas vrai, Joseph ?» dit C. Arnold Barent.
Il fit le tour de son bureau et s'assit sur son fauteuil.
« Non, » dit Kepler, « mais ça n'a quand même aucun sens. Qu'est-ce qu'il essaie de prouver ?»«
Qu'il est toujours là, peut-être, » dit Jimmy Wayne Sutter. « Qu'il attend son heure. Qu'il peut nous frapper, frapper n'importe lequel d'entre nous, où et quand il le souhaite. »
Sutter baissa la tête, faisant enfler ses bajoues, et regarda Barent par-dessus ses verres à double foyer.
« Je présume que vous allez limiter vos apparitions en public dans le proche avenir, frère C. »
Barent joignit l'extrémité de ses doigts.
« Nous ne nous reverrons plus avant juin prochain, pour l'ouverture du camp d'été de l'Island Club. Jusque-là, je serai à l'étranger, en voyage d'affaires. Je vous encourage vivement à prendre des précautions appropriées à la situation. »
« Des précautions, pourquoi faire ?»
demanda Kepler.
« Qu'est-ce qu'il veut ?»«
Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour lui proposer de devenir membre du club.
Nous lui avons même envoyé un message par l'intermédiaire de ce psychiatre juif. Et nous sommes sûrs que celui-ci est entré en contact avec Luard avant que l'explosion ne les tue tous les deux.
Les cadavres n'ont pas pu être identifiés avec certitude, dit Barent. Les empreintes dentaires du docteur Lasky avaient disparu des archives de son dentiste new-yorkais.
Ouais, fit Kepler. Et alors? Le message a sûrement été transmis.
Que veut Willy?
Tony, dit Barent.
Les trois hommes regardaient fixement Harrod.
Comment diable saurais-je ce qu'il veut?
Tony, Tony, dit Barent.
Vous avez travaillé pendant des années avec ce monsieur. Vous avez mangé avec lui, parlé avec lui, plaisanté avec lui. Qu'est-ce qu'il veut?
Le jeu.
Quoi? Dit Sutter.
Quel jeu?
Demanda Kepler en se penchant en avant.
Il veut participer au jeu qui se déroulera sur l'île après le camp d'été?
Harrod secoua la tête.
Non. Il connaît l'existence du jeu de l'île. Mais c'est ce jeu-là qu'il préfère. Comme au bon vieux temps. En Allemagne, je pense. Du temps de sa jeunesse folle avec les deux nanas. C'est comme un jeu d'échecs. Willy est un dingue des échecs. Il m'a dit une fois qu'il en rêvait la nuit. Il pense que nous sommes tous des pièces dans une foutue partie d'échecs.
Les échecs,
murmura Barent en se frottant le bout des doigts.
Ouais,
fit Harrod.
Trask a mal joué, il a envoyé ses pions dans le territoire de Willy, boum!
Trask se fait sortir de l'échiquier, idem pour Colben. Il n'avait rien contre lui, ce n'était qu'un coup dans une partie.
Et la vieille femme,
dit Barent,
était-elle la reine qu'avait choisi Willy ou bien un de ses nombreux pions?
Comment le saurais-je, bordel?
Répondit sèchement Harrod. Il se leva et arpenta la cabine, l'épaisse moquette étouffant le bruit de ses bottes.
Tel que je connais Willy, il ne lui faisait sûrement pas assez confiance pour s'en faire une alliée. Peut-être qu'il avait peur d'elle. Une chose est sûre. S'il nous orientait sur elle, c'est parce qu'il savait que nous la sous-estimerions.
Et nous sommes tombés dans le panneau, dit Barent. Cette femme avait un talent extraordinaire.
Avait? Demanda Sutter. Rien ne prouve qu'elle soit encore en vie,
dit Joseph Kepler.
Et sa maison de Charleston? Demanda le révérend. Est-ce que quelqu'un a pris la relève du groupe de surveillance mis en place par Niemann et par Charles?
Mes hommes s'en occupent, dit Kepler.
Rien à signaler. Et les lignes aériennes, insista Sutter. Colben était sûr qu'elle se préparait à quitter le pays avant qu'elle panique à l'aéroport d'Atlanta.
Ce n'est pas Mélanie Fuller qui nous intéresse, coupa Barent. Comme l'a si justement fait remarquer Tony, ce n'était qu'une diversion, une fausse piste. Si elle est encore en vie, nous pouvons l'ignorer. Et dans le cas contraire, la nature de son rôle n'a aucune importance. La question est de savoir comment nous devons réagir au récent gambit de notre ami allemand.
Je suggère que nous ne fassions rien, dit Kepler. Grâce à l'incident de lundi, nous savons que le vieil homme est encore dangereux. S'il avait voulu contacter Mr. Barent, il pouvait le faire. Nous en sommes tombés d'accord. Laissons ce vieux débris s'amuser un peu. Quand il aura fini, nous discuterons avec lui. S'il comprend les règles en vigueur, le cinquième siège du comité du club est à lui, sinon... Enfin, bon Dieu, messieurs, à nous trois... Excusez-moi, Tony, à nous quatre, nous employons des centaines de gardes du corps. De combien d'hommes dispose Willy, Tony?
Il en avait deux à L.A., dit Harrod. Jensen Luard et Tom Reynolds, mais ce n'étaient pas ses employés, c'était ses favoris.
« Vous voyez, » dit Kepler. « Attendons qu'il se lasse de jouer tout seul à son petit jeu et ensuite négocions. S'il ne veut pas négocier, envoyons-lui Haynes et ses hommes, ou alors quelques-uns de mes plombiers. »«
Non !»
rugit Jimmy Wayne Sutter.
« Nous n'avons que trop souvent tendu l'autre joue. Le Seigneur est vengeur, sa colère est terrible. Face à son indignation, qui tiendrait? Qui se dresserait quand s'embrase sa colère? Sa fureur déferle comme l'incendie, les roches s'éboulent devant lui. Il expulse ses ennemis dans les ténèbres. Nahum, chapitre 1er.
Joseph Kepler étouffa un bâillement.
« Qui parle du Seigneur, Jimmy? Nous avons affaire à un nazi sénile obsédé par les échecs. »
Le visage de Sutter s'empourpra et il tendit un doigt épais vers Kepler. Le gros rubis enchâssé dans sa bague accrocha la lumière.
« Ne vous gossez pas de moi, »
avertit-il d'une voix de basse.
« Le Seigneur m'a parlé. Il a parlé par ma bouche et sa volonté est toute puissante. »
Sutter parcourut l'assistance du regard.
« Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous avec générosité et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. »
Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5.
« Et qu'est-ce que Dieu a à dire sur ce problème ?»
demanda calmement Barent.
« Cet homme est peut-être bien l'antéchrist, »
dit Sutter d'une voix qui couvrait le bourdonnement des moteurs.
« Dieu nous ordonne de le retrouver et de le faire sortir de sa tanière. Nous devons le traiter sans la moindre pitié. Nous devons le trouver et trouver ses suppôts. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, et il connaîtra les tourments dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leurs tourments s'élèvera dans les siècles des siècles. »
Barent eut un petit sourire.
« Jimmy, d'après votre déclaration, je présume que vous êtes opposé à l'idée de négocier avec Willy et de lui proposer de devenir membre du club. »
Le révérend Jimmy Wayne Sutter but une longue gorgée de bourbon coupée d'eau minérale.
« Non, »
dit-il d'une voix si basse que Harold dut se pencher pour l'entendre.
« Je pense que nous devrions le tuer. »
Barent hocha la tête et fit pivoter son fauteuil en cuir.
« Égalité, » dit-il.
« Tony, votre avis ?»«
Je passe. Mais décider de tuer Willy, c'est bien. Le retrouver et l'éliminer, c'est une autre paire de manches. » L'opération dirigée contre Mélanie Fuller a abouti à un véritable gâchis.
Charles a commis une erreur, et il a payé pour cette erreur.
Barent se tourna vers les deux autres.
Eh bien, puisque Tony préfère s'abstenir de cette question, on dirait que c'est à moi que revient l'honneur du vote décisif.
Kepler ouvrit la bouche, fit mine de parler, puis se ravisa. Sutter sirota son bourbon en silence.
« Je ne sais pas ce que notre ami Willy mijotait à Washington, » dit Barent, « mais je n'ai pas apprécié sa conduite. Nous allons cependant considérer que ses actes étaient motivés par le dépit et laisser courir pour l'instant. Peut-être que son obsession des échecs est notre meilleur guide en la matière. Il nous reste 2 mois avant le début du camp d'été de Dolman Island et celui de nos autres activités. » Il faut bien définir nos priorités. Si Willy s'abstient de toute nouvelle provocation, nous envisagerons d'entamer des négociations à une date ultérieure. S'il continue de se montrer aussi irritant, s'il prend une seule initiative à notre encontre, nous utiliserons toutes les ressources à notre disposition, publiques et privées, pour le retrouver et le détruire. Nous inspirons pour cela des méthode évoquée par Jimmy lorsqu'il a cité l'Apocalypse. C'était bien l'Apocalypse, n'est-ce pas, frère J?
Exactement, frère C.
Bien. Je pense que je vais aller dormir un peu dans mes quartiers. J'ai une importante réunion demain à Londres. Vos chambres respectives sont prêtes à vous accueillir. Où désirez-vous être déposé?
Elle est, dit Harold.
La Nouvelle-Orléans, dit Sutter.
« New York, »
dit Kepler.
« Entendu, » dit Barent. « Donald m'a informé il y a quelques minutes que nous étions en train de survoler Nevada. Aussi déposerons-nous Tony en premier. Je regrette que vous ne puissiez profiter de votre chambre pendant toute la nuit, Tony, mais peut-être désirez-vous vous reposer avant l'atterrissage. »«
Ouais, »
fit Harold.
Barent se leva, et Haynes apparut aussitôt, ouvrant la porte donnant sur le couloir.
« Rendez-vous au camp d'été de l'Island Club, messieurs, » dit Barent.
« Ciao, et bonne chance à tous. »
Un domestique vêtu d'un blazer bleu conduisit Harold et Maria Chen à leur chambre. L'immense bureau de Barent, le salon et la chambre du milliardaire se trouvaient à l'arrière du jet aménagé. À l'avant s'étendait un couloir qui rappelait à Harold les trains européens, et sur lesquels donnaient les chambres d'amis, des pièces décorées dans des tons verts et corail, contenant un grand lit, un canapé et une télévision en couleur, et flanquées chacune de sa salle de bain.
« Où est la cheminée ?» demanda Harold au domestique.
« C'est l'avion privé du cheikh Musad qui est pourvu d'une cheminée, je pense, » répondit le beau jeune homme de l'air le plus sérieux du monde.
Harold venait de se servir une deuxième vodka on the rocks et de rejoindre Maria Chen sur le canapé lorsqu'on frappa doucement à la porte. Une jeune femme vêtue d'un blazer identique à celui du domestique lui dit
« Monsieur Barent vous prie ainsi que Miss Chen de le rejoindre dans le salon Orion. »
« Le salon Orion, » dit Harold. « Bien sûr, pourquoi pas ?»
Ils suivirent la jeune femme le long du couloir et franchirent une porte à verrouillage électronique qui donnait sur un escalier en colimaçon. Sur un appareil commercial, cet escalier aurait abouti à la cabine de première classe. Lorsqu'ils arrivèrent à son sommet, Harold et Maria Chen se figèrent, émerveillés. La jeune femme redescendit l'escalier et referma la porte, faisant disparaître les derniers vestiges de lumière en provenance du niveau inférieur. La pièce était de la taille exacte d'une cabine de 747, mais on aurait dit que quelqu'un avait ôté le fuselage de l'appareil pour en faire une plateforme ouverte sur le ciel à 35 000 pieds d'altitude. Au-dessus de leur tête brillaient des milliers d'étoiles, que la densité atmosphérique était trop faible pour faire scintiller, et l'on apercevait, en dessous la masse sombre des ailes, les feux de position vert et rouge et un tapis de nuages flottant 1 ou 2 kilomètres plus bas. On n'entendait absolument aucun bruit. On ne percevait aucune solution de continuité entre l'avion et l'étendue infinie du ciel nocturne. Seules de vagues silhouettes suggéraient la présence de quelques meubles et d'une personne assise dans un fauteuil. Derrière eux se devinait la longue masse de l'avion, dont le fuselage, à peine éclairé par les étoiles, s'achevait par un unique point lumineux clignotant sur sa dérive.
« Bon Dieu !» murmura Harold.
Il entendit Maria Chen qui reprenait soudain son souffle, ayant oublié de respirer.
« Je suis ravi que ça vous plaise, » dit la voix de Barent dans les ténèbres. « Venez vous asseoir. »
Harold et Maria Chen s'avancèrent d'un pas prudent vers un groupe de fauteuils bas, disposés autour d'une table circulaire, leurs yeux s'accoutumant peu à peu à la lueur des étoiles. Derrière eux, la première marche de l'escalier n'était matérialisée que par une bande de lumière rouge, et la porte donnant sur la cabine de pilotage se réduisait à un hémisphère sombre se découpant à l'ouest sur le semis d'étoiles. Ils s'effondrèrent sur des coussins moelleux et continuèrent à fixer le ciel.
« Il s'agit d'un composé plastique translucide, » dit Barent. « Il y en a plus de 30 couches, en fait, mais ce matériau est d'une transparence presque parfaite et d'une robustesse supérieure à celle du plexiglas. L'ensemble est soutenu par plusieurs dizaines de membrures, bien sûr, mais celles-ci sont ultra minces et quasiment invisibles la nuit. » La surface extérieure se polarise à la lumière du jour et ressemble, vue de l'extérieur, à une couche de peinture noire. Il a fallu 1 an à mes ingénieurs pour mettre ce produit au point, et il m'a fallu environ 2 ans pour convaincre le CAB qu'il ne présentait aucun risque pour la navigation en haute altitude. Si ça ne tenait qu'aux ingénieurs, les avions n'auraient ni hublots ni passagers.
« C'est merveilleux !» dit Maria Chen.
Harold vit la lueur des étoiles se refléter dans ses yeux.
« Tony, je vous ai demandé de venir tous les deux parce que ceci vous concerne tous les deux, » dit Barent.
« Quoi donc ?»«
La dynamique de notre groupe. »
vous avez peut-être remarqué une certaine tension dans l'air.
J'ai remarqué que tout le monde était sur le point de perdre les pédales.
Exactement.
Les événements de ces derniers mois ont été quelque peu ennuyeux.
Je ne comprends pas pourquoi. La plupart des gens ne s'affolent pas quand leurs collègues se font dynamiter ou noyer dans la Schuylkill River.
La vérité, c'est que nous avons péché par excès de suffisance. Ça faisait trop d'années, trop de décennies, en fait, que notre club existe. Et il est possible que les petites vendettas de Willy aient eu pour résultat un émondage nécessaire.
Tant qu'aucun d'entre nous n'est destiné à être émondé, dit Harrod.
Précisément. Barent versa du vin dans un verre en cristal et le posa devant Maria Chen. Les yeux de Harrod s'étaient assez adaptés pour qu'il voie clairement les deux autres, mais les étoiles n'en étaient devenues que plus éclatantes, les nuages plus lactescents.
En attendant, reprit Barent, il est inévitable que surviennent certains déséquilibres dans une dynamique de groupe établie de façon si précaire en des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Que voulez-vous dire ? Demanda Harrod.
Je veux dire qu'il existe une vacance du pouvoir, dit Barent d'une voix aussi glaciale que la lueur des astres. Ou plus précisément, la perception d'une vacance du pouvoir. Grâce à Willy Borden, certains nains rêvent de devenir géants, et rien que pour cela, il doit mourir.
Willy ? Alors, toutes ces histoires de négociations et de recrutement éventuels, c'était de la merde.
Oui. Je dirigerai l'Island Club tout seul si nécessaire, mais jamais cet ex-nazi ne s'assiera à notre table.
Alors pourquoi ?
Harrod s'interrompit et réfléchit pendant une minute.
Vous pensez que Kepler et Sutter sont prêts à agir ?
Barent sourit. Cela fait bien longtemps que je connais Jimmy. La première fois que je l'ai vu prêcher, c'était il y a 40 ans, sous un chapiteau, en Louisiane. Son talent était indiscipliné mais irrésistible. Il pouvait prendre une assemblée d'agnostiques, en faire ce qu'il voulait, et les convaincre qu'ils agissaient pour la gloire de Dieu. Mais Jimmy se fait vieux, et il utilise de moins en moins souvent ses pouvoirs de persuasion, préférant compter sur le gigantesque appareil de persuasion qu'il s'est édifié. Je sais qu'il vous a invité la semaine dernière dans son petit royaume enchanté pour intégristes.
Barent leva une main pour signaler à Harrod que ses explications étaient inutiles.
Ce n'est pas grave. Jimmy vous a sûrement dit que je finirais par l'apprendre, et par le comprendre. Je ne pense pas que Jimmy souhaite ruer dans les brancards, mais il perçoit un changement imminent de dirigeant, et il veut se retrouver du bon côté quand la crise sera passée. Les manigances de Willy semblent, en apparence, avoir bouleversé une équation fort délicate.
Mais pas en réalité, dit Harrod.
Non, dit Barent.
Et cette syllabe prononcée d'une voix douce était aussi définitive qu'un coup de feu.
Ils ont oublié quelques faits essentiels.
Barent ouvrit un tiroir de la table circulaire et en sortit un pistolet semi-automatique à double action.
Prenez-le, Tony.
Pourquoi ? Demanda Harrod qui sentit sa peau se hérisser.
Cette arme est bien réelle et elle est bien chargée. Prenez-la, s'il vous plaît.
Harrod accepta le pistolet et le tint des deux mains avec une certaine répugnance.
Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?
Braquez-le sur moi, Tony. Harrod tica. Il ne savait pas à quelle démonstration Barent comptait se livrer, mais il ne voulait pas y participer. Il savait que Haynes et une douzaine de gorilles se tenaient prêts à intervenir instantanément.
Je ne veux pas braquer ce truc sur vous. J'ai horreur de ce genre de petit jeu.
Braquez le pistolet sur moi, Tony.
Allez vous faire foutre, dit Harrod en se levant.
Il eut un geste agacé de la main et se dirigea vers la bande lumineuse qui matérialisait la première marche de l'escalier.
« Tony, dit la voix de Barent, venez ici.
Harold eut l'impression qu'il venait de se cogner à la paroi en plastique translucide. Tous ses muscles se nouèrent et son corps tout entier se couvrit de sueur. Il essaya d'avancer, de s'éloigner de Barent, mais ne réussit qu'à tomber à genoux. 4 ou 5 ans plus tôt, il avait laissé Willy tenter d'exercer son pouvoir sur lui. C'était une démonstration purement amicale, inspirée par une question que Harold avait posée à Willy en l'écoutant parler du jeu de Vienne. Lorsqu'Harold utilisait son pouvoir sur une femme, il savait qu'un flot de domination brûlante descendait sur sa victime. En comparaison, l'assaut de Willy lui était apparu comme une vague mais horrible pression dans son crâne, soulignée par un bruit blanc et une atroce sensation de claustrophobie. Mais pas un instant, Harold n'avait perdu le contrôle de ses actes. Il avait tout de suite compris que le talent de Willy était supérieur au sien. Plus brutal, avait-il pensé sur le moment, mais s'il doutait de pouvoir utiliser un sujet tout en subissant les assauts de Willy, Harold était sûr que Willy était incapable de l'utiliser, lui.
« Yeah !» avait dit Willy. « C'est toujours comme ça. Nous pouvons nous affronter, mais ceux qui utilisent ne peuvent pas être utilisés. Nicht wahr ? Nous devons tester notre force par l'intermédiaire d'un tiers, hein ? Quel dommage. Mais un roi ne peut pas prendre un autre roi, Tony. Souvenez-vous-en. »
Harold s'en était souvenu. Jusqu'à aujourd'hui.
« Venez ici. »
La voix de Barent était toujours douce et mélodieuse, mais ses échos semblaient résonner jusqu'à emplir le crâne de Harold, jusqu'à emplir la cabine, jusqu'à emplir l'univers et faire trembler les astres.
« Venez ici, Tony. »
Harold, toujours à genoux, paralysé, tomba brutalement sur le dos comme un cascadeur arraché à son cheval par des fils invisibles. Son corps entra en convulsion et ses bottes martelèrent la moquette. Ses dents se serrèrent, ses yeux s'exorbitèrent. Harold sentit un cri monter dans sa gorge et sut qu'il ne pourrait jamais le pousser, qu'il grandirait en lui jusqu'à exploser, projetant des lambeaux de sa chair dans toute la cabine. Sur le dos, les jambes raides et tressautantes, Harold sentit les muscles de ses bras se dilater et se contracter, ses coudes s'enfoncer dans la moquette, ses doigts se transformer en griffes, et il rampa vers l'ombre assise.
« Venez ici, Tony. »
Pareil à un bébé épileptique apprenant à ramper sur le dos, Tony Harold obéit. Lorsque sa tête toucha la table basse, Harold sentit l'étau mental le relâcher. Son corps fut secoué d'un spasme de soulagement si violent qu'il faillit uriner. Il roula sur lui-même et se mit à genoux, posant les bras sur la table en verre noir.
« Braquez ce pistolet sur moi, Tony, »
dit Barent, toujours sur le ton de la conversation. Harold sentit une rage meurtrière le posséder. Ses mains tremblaient violemment lorsqu'il chercha l'arme à tâtons, la trouva, la leva. Le canon n'avait pas achevé de se dresser que la douleur frappa. Plusieurs années plus tôt, alors qu'il venait d'arriver à Hollywood, Harold avait souffert de calculs rénaux. La douleur avait été incroyable, insupportable. Un de ses amis lui avait dit plus tard que ça devait faire le même effet que de recevoir un coup de couteau dans le dos. Harold savait qu'il se trompait. Il avait été poignardé dans le dos alors qu'il faisait partie d'un gang de jeunes à Chicago. Les calculs faisaient encore plus mal. On avait l'impression d'être poignardé de l'intérieur, comme si quelqu'un faisait courir une lame de rasoir le long de vos veines et de vos entrailles. Et cette douleur avait été accompagnée de nausées, de vomissements, de crampes et de poussées de fièvre. Or, ceci était pire. Bien pire. Avant que le canon ne se soit dressé, Harold était recroquevillé sur la moquette, vomissant sur sa chemise en soie et s'efforçant de se rouler en boule. Et outre la douleur, la nausée et l'humiliation, il y avait cette certitude atroce. Il avait tenté de faire du mal à Mr. Barent. Cette idée était insupportable,
C'était la pensée la plus affligeante dont Tony ait jamais souffert. Il pleura, vomit et gémit de douleur. Le pistolet avait échappé à ses doigts pour retomber sur la table en verre noir.
« Oh, vous ne vous sentez pas bien ?» dit doucement Barent.
« Peut-être que Miss Chen pourrait braquer cette arme sur moi. »«
Non !»
octa Rod en se recroquevillant un peu plus sur lui-même.
« Si !» dit Barent.
« Je veux qu'elle le fasse. » « Dites-lui de braquer ce pistolet sur moi, Tony. »«
Prenez le flingue !»
octa Rod.
« Braquez-le sur lui !»
Maria Chen bougeait avec lenteur, comme si elle s'était trouvée sous l'eau. Elle prit le pistolet, le tint à deux mains, et visa la tête de Tony Harrod.
« Non ! Sur lui !»
Harrod se tordit de douleur, secoué par de nouvelles crampes.
« Braquez-le sur lui !»
Barren sourit. « Elle n'a pas besoin d'entendre mes ordres pour leur obéir, Tony. » Maria Chen souleva le percuteur avec son pouce. La gueule noire du canon était braquée sur le visage de Harrod. Il vit la terreur et le chagrin qu'exprimaient les yeux de sa maîtresse. Maria Chen n'avait jamais été utilisée jusqu'à ce jour.
« Impossible !»
octa Harrod, sentant douleur et nausée disparaître peu à peu, et sachant qu'il n'avait peut-être que quelques secondes à vivre. Il se redressa péniblement et leva une main dans une tentative futile pour arrêter la balle.
« Impossible ! C'est une neutre !»
Il avait presque hurlé.
« Qu'est-ce qu'un neutre ?»
demanda Sir Arnold Barent. « Je n'en ai jamais rencontré, Tony. » Il tourna la tête. « Appuyez sur la détente, je vous prie, Maria. » Le percuteur retomba. Harrod entendit un clic. Maria Chen appuya sur la détente, encore et encore.
« Suis-je distrait ?» dit Barent. « Nous avons oublié de le charger.
Maria, voulez-vous aider Tony à regagner son siège, s'il vous plaît ?» Harrod s'assit, toujours tremblant, la chemise couverte de sueur et de vomissures, la tête basse, les bras sur les cuisses.
« Debra va vous raccompagner et vous aider à vous laver, Tony. Et Richard et Gordon vont nettoyer la moquette. Ensuite, si vous voulez monter ici pour boire un verre avant l'atterrissage, ne vous gênez pas.
Le salon Orion est un endroit unique, Tony. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au sujet de la tentation qu'ont certains d'altérer l'ordre naturel des choses. C'est en partie ma faute, Tony. Cela fait trop longtemps que la plupart d'entre eux n'ont pas fait l'expérience d'une telle démonstration. Les souvenirs sont choses fragiles, même lorsqu'ils sont d'une importance vitale.
Barent se pencha en avant. Lorsque Joseph Kepler viendra vous faire une proposition, vous l'accepterez. Est-ce bien compris, Tony?
Harrod hocha la tête. Des gouttes de sueur tombèrent sur son pantalon souillé.
Répondez-moi, Tony.
Oui.
Et vous me contacterez aussitôt?
Oui.
Brave garçon, dit Sir Arnold Barent, et il tapota Harrod sur la joue.
Il fit pivoter son fauteuil de façon que seul son dossier soit visible, obélisque noir sur un champ d'étoiles. Lorsque le fauteuil reprit sa position initiale, Barent avait disparu. Des hommes vinrent nettoyer et désinfecter la moquette. Une minute plus tard, la jeune femme arriva, une lampe torche à la main, et prit Harrod par le coude. Il la chassa d'un geste. Maria Chen tenta de lui poser une main sur l'épaule, mais il lui tourna le dos et descendit l'escalier en titubant. 20 minutes plus tard, ils atterrirent à LAX. Une limousine avec chauffeur les attendait. Harrod ne se retourna même pas pour voir le 747 d'ébène s'éloigner sur la piste et décoller.